Le roman des poètes, l'émission vagabonde de la BIP. Si la poésie ne vous aide pas à vivre, faites autre chose.
Si la poesía no te ayuda a vivir, hace otra cosa.
If poetry doesn't help you to live, then do something else.
Se la poesía no te ayuda a vivir, allora fate qualcos'altro.
Shiri e Shamzayar Njomus, Bashka Bishay.
L'émission quinzomadaire de la BIP, Brigade d'intervention poétique, Michel Armatz et compagnie. Une émission pour raconter la vie des grands poètes, connus ou pas connus.
Rukuni Shengwei Shugu, Punan Zhang Shengwu Guan Qintai, Nacho Ching Wangli Shugu.
Ha a költészet nem éltet, fordulj más felé.
Avec au gré des émissions, les voix de Charo Beltran, Thérèse Bonetta, Cécile Combredet, Florence Mourieras et messieurs Christian Boisson, Jean-Claude César, Yves Flanck, Julien Gill, Marc Pastor, Patrick Vendrin et Michel Arbatz.
Si la poésie vous aide pas à vivre, faites autre chose.
Une énergie incroyable, une insoumission absolue, une écriture exempte de toute contrainte, une sensibilité à fleur de peau, une pureté rare, une imagination fabuleuse. Desnos, un singulier mage moderne qui a des navires étrangers dans chaque pli de sa cervelle. Voilà ce que disait Louis Aragon de Robert Desnos, que nous retrouvons pour cette émission qui parle maintenant de ses années de maturité. Il est arrivé à mi-route de sa vie.
Il y a un moment précis dans le temps où l'homme atteint le milieu exact de sa vie, un fragment de seconde. Une fugitive parcelle de temps plus rapide qu'un regard, plus rapide que le sommet des pamoisons amoureuses, plus rapide que la lumière. Et l'homme est sensible à ce moment. De longues avenues entre des frondaisons s'allongent vers la tour où sommeille une dame dont la beauté résiste aux baisers, aux saisons, comme une étoile au vent, comme un rocher aux lames. Un bateau frémissant s'enfonce et gueule. Au sommet d'un arbre claque un drapeau. Une femme bien peignée mais dont les bas tombent sur les souliers apparaît au coin d'une rue, exaltée, frémissante, protégeant de sa main une lampe surannée et qui fume. Et encore un débardeur ivre chante au coin d'un pont. Et encore une amante mord les lèvres de son amant. Et encore un pétale de rose tombe sur un lit vide. Et encore trois pendules sonnent la même heure à quelques minutes d'intervalle. Et encore un homme qui passe dans une rue se retourne parce que l'on a crié son prénom, mais ce n'est pas lui que cette femme appelle. Et encore, un ministre en grande tenue, désagréablement gêné par le pan de sa chemise coincée entre son pantalon et son caleçon, inaugure un orphelinat. Et encore, d'un camion lancé à toute vitesse dans les rues vides de la nuit, tombe une tomate merveilleuse qui roule dans le ruisseau et qui sera balayée plus tard. Et encore, un incendie s'allume au sixième étage d'une maison qui flambe au cœur de la ville, silencieuse et indifférente. Et encore, un homme entend une chanson oubliée depuis longtemps, et l'oubliera de nouveau. Et encore maintes autres choses que l'homme voit à l'instant précis du milieu de sa vie. Maintes autres choses se déroulent longuement dans le plus court des courts instants de la terre. Il pressent le mystère de cette seconde, de ce fragment de seconde, mais il dit « Chassons ces idées noires ». Et il chasse ces idées noires. Et que pourrait-il dire? Et que pourrait-il faire de mieux?
Chassons ces idées noires, C'est bien ce que Desnos essaye de faire dans ce début de l'année 1930. On l'a laissé, il avait perdu Yvonne Georges, son grand amour. Il vient de se séparer avec fracas d'André Breton et il est dans une situation un petit peu délicate. Il fait des petits boulots pour essayer de survivre. Mais il y a quelque chose qui déjà éclaire sa vie, c'est la rencontre avec Yuki. Nous sommes allés demander à Anne Eger, qui est l'auteur d'une très belle biographie qui est parue il y a un an sur Robert Desnos chez Fayard, de nous parler de cette rencontre avec Yuki Desnos.
Yuki, il la rencontre à Montparnasse dans un café, un soir de où tout le monde, enfin, un soir de beuverie, on va dire. Et le premier contact se passe très très mal entre les deux.
Oui.
Il la trouve odieuse, enfin, il la trouve odieuse. Oui, il la trouve bavarde, aguicheuse. Elle parle beaucoup, elle parle fort, elle est entourée de tous ses amis, et souvent d'hommes. Et lui-même est odieux ce soir-là, donc elle le trouve totalement désagréable. Et je pense qu'il la première fois qu'il se rend compte, si mes souvenirs sont bons, c'est juste avant son voyage à Cuba.
D'accord, dont on a parlé déjà d'ailleurs dans voilà.
Que je trouve essentiel, si je peux permettre cette digression. Quand il part à Cuba, c'est une découverte, parce qu'il adore voyager. Il adore l'Amérique du Sud, les Caraïbes, les gens qu'il rencontre. Et surtout, je pense que c'est à ce moment-là qu'il a conscience d'un engagement politique.
D'accord.
Et d'un engagement politique actif. Et qui lui donne aussi des ailes. Il découvre la musique aussi, qu'il adore. Et je pense que c'est le voyage à Cuba qui permet de rompre avec Breton, qui lui donne l'envie de sortir de ce carcan et de reprendre sa liberté, parce qu'il avait une relation assez passionnelle quand même avec Breton. Et après son retour, il retrouve Yuki, toujours dans un café, et elle l'attire dans ses mailles. Donc elle vit avec Fujita, elle séduit un peu Desnos, mais enfin, comme elle aurait séduit n'importe quel autre homme. Et lui tombe éperdument amoureux de cette femme qui est très extravagante, très extravertie, qui adore les belles robes, le luxe. Elle aime sortir, elle aime faire la fête. Elle est joyeuse, c'est l'antithèse d'Yvonne. Il y a plusieurs choses en même temps. C'est-à-dire qu'il rencontre quelqu'un de très joyeux au moment où Yvonne meurt. Lui qui a toujours aussi ce côté à la fois tragique et joyeux. Et très optimiste et très lucide, découvre en Yuki le côté solaire.
Et il habite où à l'époque ?
Alors il habite encore rue Blomet.
Rue Blomet, c'est dans l'ancien atelier d'André Masson.
Voilà.
Et je crois qu'elle vient le rejoindre.
Elle vient souvent le rejoindre parce qu'elle aime beaucoup la compagnie de Desnos, elle aime bien écouter les disques avec lui, elle arrive toujours avec une bouteille, elle aime bien les copains de Desnos. Et elle se sent bien dans ce milieu-là, mais elle a toujours aimé le milieu artistique aussi. Alors ça va se faire petit à petit, il y a une période où ils sont, on va dire, il est beaucoup invité aussi chez Fujita. Elle vient toute seule souvent dans l'atelier de Desnos et ils passent des vacances ensemble, tous les trois. Et il y a un moment où il y a un petit couple à trois quand même qui se forme. Mm-hmm. Quand Fujita s'en va, Desnos est là. Et quand il part 15 jours, quand il part un an, quand il part définitivement, il est toujours là. On va dire que la réelle installation, c'est quand il se... au départ de Fujita, quand il se retrouve dans... ils habitent dans le 15e à ce moment-là. Et surtout définitivement et officiellement, c'est quand ils habitent rue Mazarine. Alors la rencontre avec Yuki est importante dans le sens où il s'engage à s'occuper d'elle, il s'engage à lui offrir tout ce qu'elle veut. Il s'engage à la soutenir et à lui passer tous ses caprices. Il la veut, il veut la garder, il fait tout. Donc c'est aussi un moment où il a besoin d'argent, il a besoin de gagner sa vie, et c'est la rencontre aussi avec Paul Deharme qui lui permet de trouver un métier dans la radio et dans la publicité. Et un métier qu'il va faire avec beaucoup de passion. Où il s'amuse beaucoup, mais c'est un créateur dans ce domaine et dans ce média. Et il arrive à peu près à allier justement son désir de transmettre la poésie par d'autres voies que l'écrit et de vivre avec Yuki une vie à peu près enfin, très, très mouvementée.
La négresse qui danse encore à minuit dansera jusqu'à l'aurore, jusqu'à midi et jusqu'à l'autre nuit. Les seins bandés et les yeux clos, elle parcourt un beau pays où la tendresse se mêle à la colère. Elle sera toute surprise après la danse, après l'ivresse, de retrouver la rue froide, la nuit précoce et les draps froids. Comme une Vénus inconnue surgissant de la conque blanche du lit, elle reposera son beau corps en rêvant d'un Olympe noir, comme elle. Et des anges noirs comme du charbon, soulevant cette déesse de couleur, l'emporteront vers un pays de ténèbres où brille un soleil éclatant et bleu. Là, les amants sont tendres et méchants, et ils comprennent ces chansons. L'amour ne les fatigue pas, et la mer a le parfum des corps virils. Voilà la vie de la négresse qui danse encore à minuit, qui dansera jusqu'à l'aurore, jusqu'à demain midi et toute l'autre nuit.
Mais ce soir, je ne veux dire qu'une chose. Deux montagnes étaient semblables, de forme et de dimension. Tu es sur l'une et moi sur l'autre. Est-ce que nous nous reconnaissons? Quels signes nous faisons-nous? Nous devons nous entendre et nous aimer. Peut-être m'aimes-tu? Je t'aime déjà. Mais ces étendues entre nous, qui les franchira? Tu ne dis rien, mais tu me regardes. Et pour ce regard, il n'y a ni jour, ni étendue. Ma seule amie, mon amour. Je n'ai pas fini de te dire tout, mais à quoi bon? L'indifférence en toi monte comme un rosier vorace qui, détruisant les murailles, se tord et grandit, étouffe l'ivrogne de son parfum. Et puis, est-ce que cela meurt? Un clair refrain retentit dans la ruelle lavée par le matin, la nuit et le printemps. Le géranium à la fenêtre fermée semble deviner l'avenir. C'est alors que surgit le héros du drame. Je ne te conte cette histoire qui ne tient pas debout que parce que je n'ose pas continuer comme j'ai commencé. Car je crois à la vertu des mots et des choses formulées. Tu diras au revoir pour moi à la petite fille du pont, à la petite fille qui chante de si jolies chansons, à mon ami de toujours que j'ai négligé, à ma première maîtresse, à ceux qui connurent celle que tu sais, à mes vrais amis et tu les reconnaîtras aisément, à mon épée de verre, à ma sirène de cire, à mes monstres, à mon lit. Quant à toi que j'aime plus que tout au monde, je ne te dis pas encore au revoir, je te reverrai, mais j'ai peur de n'avoir plus longtemps à te voir.
Patrick Vendrin nous disait la négresse qui est un petit clin d'œil aussi au bal nègre devant lequel habitait Robert Desnos. Et c'est à cette époque-là que Yuki commence à venir régulièrement chez lui et va s'ouvrir une nouvelle vie, à la fois difficile, comme on peut l'entendre dans ce poème Sir Amour, parce que c'est une relation qui est tumultueuse. Yuki a beaucoup d'amants, c'est de notoriété publique, mais cette femme très solaire attire aussi beaucoup de joie autour de lui, et ils vont finalement s'installer rue Mazarine dans un petit appartement qui n'est pas si petit que ça, puisqu'il finit par contenir énormément d'amis. Desnos est connu pour sa générosité. Il a fait des petits boulots, il a commencé par faire des choses absolument incroyables que raconte d'ailleurs Yuki dans ses souvenirs. Il est à un moment employé par un copain dans une agence immobilière, il doit aller régler des problèmes absolument invraisemblables, convaincre un locataire qui pisse dans la cage d'ascenseur d'arrêter de le faire. Ce vieil homme d'ailleurs le fait simplement par opposition aux ascenseurs et pas par saleté. Il doit régler des problèmes de limaces dans la plomberie des immeubles, et finalement il commence à s'orienter, comme l'a dit Anne Eger, vers la publicité grâce à Paul Deharme qui est un pionnier de la radio, et puis aussi grâce à l'amitié d'Armand Salacrou, dont la famille tient les produits, des produits comme la Marie-Rose, le pétrole Anne également. Et donc c'est le marché de la publicité par radio va échoir à une boîte qui s'appelle Phonirique et qui est montée par Paul Deharme. Et Paul Deharme, qui a pressenti dans Desnos un imaginatif, on dirait aujourd'hui un créatif extraordinaire, va l'embarquer dans son équipe. Voilà, c'est comme ça commence l'aventure de la radio. Mais on parlait aussi, à côté de ça, Desnos ne gagne pas des 1000 et des 100. Il a un moment même comptable, je crois. C'est lui qui règle il est comptable pour régler les payes d'un petit journal. Ça lui ressemble pas du tout d'être comptable. Mais un jour, Jean-Louis Barrault, un jeune acteur qu'il vient de connaître, vient lui expliquer son désespoir. Il veut monter Numance et il n'a pas un rond pour le faire. Il espérait avoir un mécène qu'il n'a pas. Desnos enregistre la chose. 3 heures après, il revient, et c'est une somme énorme. Il revient, je crois, avec 6000 francs à l'époque. Ça doit représenter des dizaines de milliers d'euros. Desnos revient avec la somme et la donne à Barrault. Il dit voilà, j'ai trouvé ce qu'il te faut. En fait, il a pris une avance sur les payes de tous les journalistes. Bon, finalement, l'histoire s'arrangera, mais je crois qu'elle dénote très bien cet esprit de générosité un peu folle de Desnos. Desnos organise avec Yuki des fêtes. Alors, viennent dans ces fêtes, évidemment, Barrault, Queneau, Jacques Prévert, mais aussi des gens de la rue, des clochards qu'on invite de temps en temps à venir boire le coup. Ce qui vaut d'ailleurs une fois à Desnos. On sait que c'est chez Desnos, mais tout le monde ne sait pas qui est Desnos. C'est un jour, Desnos croise un clodo dans la rue qui dit « Ah mais toi, je te connais, je t'ai vu chez Desnos !» Voilà, c'est un petit peu le caractère du bonhomme. Donc Desnos commence à...
C'est à cette époque-là qu'il écrit La Complainte de Fantômas.
Il écrit, alors ça c'est une des premières réalisations qu'il va faire à la radio et qui va le lancer et qui va lui donner un succès extraordinaire. On se souvient qu'il a emmené avec lui Alejo Carpentier, qu'il a ramené de Cuba. Alejo Carpentier qui est un grand musicologue et qui va devenir finalement le directeur musical de presque toutes les créations que va faire Desnos à la radio. Alors évidemment, La Complainte de Fantômas, c'est un tabac, un succès extraordinaire. Il faut rappeler que quand même de jouer dedans, des gens comme Antonin Artaud, Jean-Louis Barrault, que c'est Kurt Weill qui avait fait la musique, tous ces gens-là n'étaient pas connus à l'époque, et c'est toute une génération qui monte et qui va accompagner Desnos pendant toutes ces années de grande fantaisie et d'explosion.
Ils étaient 4 qui n'avaient plus de tête, 4 à qui l'on avait coupé les coups. On les appelait les 4-5 coups. Quand ils buvaient un verre au café de la place ou du boulevard, les garçons n'oubliaient pas d'apporter des entonnoirs. Quand ils mangeaient, c'était sanglant, et tous 4 chantant et sanglotant. Quand ils aimaient, c'était du sang. Quand ils couraient, c'était du vent. Quand ils pleuraient, c'était vivant. Quand ils dormaient, c'était sans regret. Quand ils travaillaient, c'était méchant. Quand ils rôdaient, c'était effrayant. Quand ils jouaient, c'était différent. Quand ils jouaient, c'était comme tout le monde, comme vous et moi, vous et nous et tous les autres. Quand ils jouaient, c'était étonnant. Mais quand ils parlaient, c'était d'amour. Ils auraient pour un baiser donné ce que leur restait de sang. Leurs mains avaient des lignes sans nombre qui se perdaient parmi les ombres comme des rails dans la forêt. Quand ils s'asseyaient, c'était plus majestueux que des rois, et les idoles se cachaient derrière leur croix quand devant elles ils passaient droit. On leur avait rapporté leur tête 20 fois, 100 fois, les ayant retrouvés à la chasse ou dans les fêtes. Mais jamais ils ne voulurent reprendre ces têtes où brillaient leurs yeux, où les souvenirs dormaient dans leur cervelle. Cela ne faisait peut-être pas l'affaire des chapeliers et des dentistes. La gaieté des uns rend les autres tristes. Les 400 coups vivent encore, c'est certain. J'en connais au moins un, et peut-être aussi les trois autres. Le premier, c'est Anatole, le second, c'est Croquignol, le troisième, c'est Barbemolle, le quatrième, c'est encore Anatole. Je le vois de moins en moins, car c'est déprimant à la fin, la fréquentation des gens trop malins.
Les sources de la nuit sont baignées de lumière. C'est un fleuve où constamment boivent des chevaux et des juments de pierre en hennissant. Tant de siècles de dur labeur aboutiront-ils enfin à la fatigue qui amollit les pierres? Tant de larmes, tant de sueurs justifieront-ils le sommeil sur la digue? Sur la digue où vient se briser le fleuve qui va vers la nuit, le rêve abolit la pensée, c'est une étoile. Suivez-nous, docile étoile, et venez manger dans notre main, maîtresse enfin de son destin. Et des quatre éléments hostiles.
Robert Desnos est à la radio et il dit de lui « Je suis le poète le plus écouté de France ». En plaisantant évidemment, mais il a compris comment la radio peut être un véhicule extraordinaire pour la poésie. La poésie comme il l'entend, on vient d'écouter deux choses très différentes. Ce poème des 400 coups qui est quelque chose de très facétieux et puis ces sources de la nuit qui ont quelque chose de très romantique. Mais dans l'un comme dans l'autre de ces aspects, il tient à rester très proche du parler populaire. Il tient beaucoup à toucher le plus grand monde possible avec la poésie. Et il a trouvé un territoire de prédilection avec la radio. Alors évidemment, il fait les deux choses en même temps, un peu tout le temps. Il fait à la fois des émissions très pédagogiques qu'on lui commande, et puis il gagne aussi pas mal d'argent en faisant des publicités comme on a dit, alors sur la Marie Rose, la mort lente des poux, un petit exemple pour l'anis berger. Ah, que je suis content, à la bonne heure en effet, car c'est l'heure du berger. Voilà le genre de petit slogan qu'écrit Desnos sur des coins de table et qui le font vivre. Et à côté de ça, il continue d'écrire, il continue ses recherches, il continue à explorer un peu tous les types de poésie. Mais toujours, toujours, il se rapproche du populaire, de la romance populaire, des chansons. Il se met à écrire des chansons pour Fréhel, pour Damia. Dans son travail de journaliste, parce qu'il continue à être critique, il a abandonné son travail dans des quotidiens, mais il fait des critiques de Charles Trenet débutant, d'Edith Piaf débutante. Il y a même un recueil qu'on peut recommander ici, qui est publié par les éditions du Petit Véhicule à Nantes et qui s'appelle Les Voix intérieures, et qui est un recueil à la fois de ses chansons, mais aussi de tous les articles qu'il a écrits, parce que c'est un espèce de démiurge, un touche-à-tout génial.
Au détour du chemin, il étendit la main devant le beau matin. Le ciel était si clair que les nuages dans l'air ressemblait à l'écume de la mer. Et la fleur des pommiers blanchissait dans les prés où séchait le linge lavé. La source qui chantait chantait la vie qui passait au long des prés, au long des haies. Et la forêt à l'horizon où verdissait le gazon, comme une cloche, était pleine de sons. La vie était si belle, elle entrait si bien dans ses prunelles, dans son cœur et dans ses oreilles, qu'il éclata de rire. Il rit au monde et au soupir du vent dans les arbres en fleurs. Il rit à l'odeur de la terre, il rit au linge des lavandières, il rit aux nuages passant dans l'air. Comme il riait, en haut de la colline, parut la fille de belle mine qui venait de la maison voisine. Et la fille rit aussi, et quand son rire s'évanouit, les oiseaux chantaient à nouveau. Elle rit de le voir rire, et les colombes, qui se mirent dans le bassin aux calmes eaux, écoutèrent son rire dans l'air s'évanouir. Jamais plus ils ne se revirent. Elle passa souvent sur le chemin où l'homme tendit la main à la lumière du matin. Maintes fois il se souvint d'elle, et sa mémoire trop fidèle se reflétait dans ses prunelles. Maintes fois elle se souvint de lui, et dans l'eau profonde du puits, c'est son visage qu'elle revit. Les ans passèrent un à un, en pâlissant, comme au matin, les cartes qu'un joueur tient dans sa main. Tous deux pourrissent dans la terre, mordus par les vers sincères. La terre emplit leur bouche pour les faire taire. Peut-être s'appellerait-il dans la nuit si la mort n'avait horreur du bruit. Le chemin reste et le temps fuit. Mais chaque jour, le beau matin comme un œuf tombe dans la main du passant sur le chemin. Chaque jour, le ciel est si clair que les nuages dans l'air sont comme l'écume de la mer. Mort, épave sombrée dans la terre, nous ignorons vos misères chantées par les solitaires. Nous nageons, nous vivons dans l'air pur de chaque saison. La vie est belle et l'air est bon.
Où allez-vous avec vos tas de carottes? Où allez-vous, nom de Dieu? Avec vos têtes de veau, avec vos cœurs à l'oseille? Où allez-vous, où allez-vous? Nous allons pisser dans les trèfles et cracher dans les saint foins. Où allez-vous avec vos têtes de veau? Où allez-vous avec Cambara? Le soleil est un peu liquide? Un peu liquide cette nuit? Où allez-vous, tête à l'oseille? Nous allons pisser dans les trèfles et cracher dans les saint foins. Où allez-vous? Où allez-vous à travers la boue et la nuit? Nous allons cracher dans les trèfles et pisser dans les saint foins. Avec nos airs d'andouille, avec nos becs de lièvre, nous allons pisser dans les trèfles. Arrêtez-vous, je vous rejoins. Je vous rattrape ventre à terre. Andouille vous-même et vos copains, je vais pisser dans les trèfles et cracher dans les saint foins. Et pourquoi ne venez-vous pas? Je ne vais pas bien, je vais mieux. Cœur d'andouille et couilles de lion, je vais pisser, pisser avec vous, dans les trèfles et cracher dans les saint foins. Baiser d'après-minuit. Vous sentez la rouille, vous sentez le fer, vous sentez l'homme, vous sentez la femme. Vous sentez encore maintes autres choses. Le porte-plume mâché à 4 ans quand on apprend à écrire, les cahiers neufs, les livres des traînes tout dorés et peints d'un rouge qui poissent et saignent au bord des doigts. Baiser d'après-minuit, baignade dans les ruisseaux froids comme un fil de rasoir.
Il était une feuille avec ses lignes. Ligne de vie, ligne de chance, ligne de cœur. Il était une branche au bout de la feuille. Ligne fourchue, signe de vie, signe de chance, signe de cœur. Il était un arbre au bout de la branche. Un arbre digne de vie, digne de chance, digne de cœur. Cœur gravé, percé, transpercé, un arbre que nul jamais ne vit. Il était des racines au bout de l'arbre. Racines, vigne de vie, vigne de chance, vigne de cœur. Au bout des racines, il était la terre tout court, la terre toute ronde, la terre toute seule au travers du ciel, la terre.
Robert Desnos avec qui nous sommes en compagnie jusqu'à la fin de cette heure. Robert, donc, est journaliste, critique, homme de radio. Il peint également, il produit énormément. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui fait que certains le méprisent un petit peu cette œuvre touche à tout géniale, parce qu'il n'est pas du tout intéressé par une quelconque idée de carrière, comme il le dira lui-même dans un texte que je cite de mémoire approximativement. Il dit « Je serai certainement d'un quelque intérêt pour quelques bibliophiles. Ce qui survivra de moi, ce sera probablement mes poèmes pour les enfants, les choses que j'ai écrites pour les enfants. » Il n'en a cure, c'est-à-dire qu'il est un homme intéressé par toutes les choses de la vie. Il fait les émissions qu'il fait, il les fait à la demande, on lui demande, c'est un gagne-pain, donc il a des sujets à la commande, et puis il va toujours garder quand même cette exigence très grande d'écrire régulièrement en dehors de ce, disons, de cette activité alimentaire. Il va même pendant une année s'astreindre à écrire un poème par jour. On lira tout à l'heure d'ailleurs la postface à son recueil État de veille, qui fait mention de cette expérience, et avec toujours le souci, on pourrait le comparer à ces peintres qui ne veulent pas de repentir ni de remords, c'est-à-dire j'écris, j'honore ce qui vient, et ma foi, tout n'est pas de la même eau ni de la même qualité, mais j'explore absolument tout ce qu'il fera jusqu'à la fin de sa vie. Voici donc un art poétique qui dit bien un peu l'extrême exigence de Desnos dans tous les sens du terme.
Par le travers de la gueule, ramasser dans la boue et la gadoue, cracher, vomir, rejeter, je suis le ver témoin du souffle de mon maître. Déchets, rebuts, ordures, comme le diamant, la flamme et le bleu de ciel, pas pur, pas vierge, mais baisé dans tous les coins. Baiser, enfiler, sucer, enculer, violer, je suis le ver témoin du souffle de mon maître. Baiseuse et violatrice, pas pucelle, rien de plus sale qu'un pucelage. Ouf, ça y est, on en sort. Bonne terre boueuse où je mets le pied. Je suis pour le vent, le grand vent et la mer. Je suis le ver témoin du souffle de mon maître. Ça craque, ça pète. Ça chante, ça ronfle, grand vent, tempête, cœur du monde. Il n'y a plus de sale temps. J'aime tous les temps, j'aime le temps, j'aime le grand vent, la pluie, les cris, la neige, le soleil, le feu, et tout ce qui est de la terre boueuse ou sèche, et que ça croule, et que ça pourrisse. Ça pourrit dur au pied des chênes, et ça souffle encore plus dur au sommet, ni secoué, et les fameux colibris d'où tout à l'heure précipités. Rossignol époumonné, feuillage des forêts immenses et palpitantes, souillé et froissé comme du papier chiotte. Enfin le voilà qui sort de sa bauge, l'écorché sanglant qui chante avec sa gorge à vif, pas d'ongle au bout de ses doigts, Orphée qu'on l'appelle, baiseur à froid, confident des sibylles, Bacchus châtré, délirant et clairvoyant.
Les premiers poèmes de ce recueil datent de 1936. Durant toute cette année, et jusqu'au printemps 1937, je m'étais contraint à écrire un poème chaque soir, avant de m'endormir. Avec ou sans sujet, fatigué ou non, j'observais fidèlement cette discipline. J'emplis ainsi une série de cahiers, où on l'imagine, le déchet fut grand, quand en 1940, j'entrepris de les relire. Certains, cependant, figurent dans Fortune, sous le titre général de « Les portes battantes ». Les présents poèmes ne sont pas ici publiés dans leur texte original. Ils ont parfois été refaits complètement, mais l'expérience valait d'être tentée. Certains soirs, le poème s'imposait, il s'était construit de lui-même au cours de la journée. D'autres fois, le cerveau vide, c'était un thème inattendu qui guidait la main plutôt que la pensée. Mais il ne s'agissait pas d'écriture automatique. Chaque mot, chaque vers était contrôlé, et l'exigence mécanique se manifestait plutôt dans le rythme, dans une nécessité d'assonance et de forme primitive telles que celles des tercets à rimes ou assonances uniques. Le résultat d'une telle entreprise fut une purge intellectuelle complète qui m'aurait fait sans doute renoncer définitivement à la poésie si je n'avais eu à l'époque la chance d'être un des plus féconds rédacteurs de slogans et indicatifs publicitaires radiophoniques. Toute substance poétique gratuite, toute inspiration étant pour longtemps consommée, je me livrais avec passion au travail quasi mathématique mais cependant intuitif de l'adaptation des paroles à la musique, de la fabrication des sentences, proverbes et devises publicitaires, travail dont la première exigence était un retour aux règles proprement populaires en matière de rythme. Je ne doute pas qu'un jour les folkloristes ne se penchent sur l'énorme production commerciale des différents postes français de radio pendant la dite période et n'y trouvent prétexte à enseignements sur le mode de vie et la sensibilité française. J'ai ajouté à ces poèmes forcés des couplets composés avec l'ambition de proposer aux musiciens des textes du genre des coplas espagnols, des sons cubains ou des blues américains. C'est-à-dire des textes dont ils puissent user avec la plus grande liberté, en coupant, en répétant des phrases, en ajoutant même ce qu'ils voudront y ajouter, ceci en souhaitant qu'ils laissent aux orchestres une liberté identique pour l'exécution de leur musique. Il suffit de dire que je tente de revenir à Nerval, peut-être aussi à Gongora, ou plutôt de repartir de leurs œuvres par des chemins différents de ceux qui ont conduit la poésie à travers des paysages si émouvants jusqu'au domaine contemporain, trop cultivé peut-être. En définitive, ce n'est pas la poésie qui doit être libre, c'est le poète.
¿Qué pasará? ¿Ay, qué habrá pasado?
Carruja Mussolini, suspira Franco, suspira Franco. ¿Para qué tantos humos, tantos farores, si nuestros marineros son españoles? ¿Qué será? ¿Ay, qué pasará? ¿Qué estará pasando? La marina española que está luchando, que está luchando.
¿Qué será? ¿Ay, qué pasará? ¿Qué habrá sucedido?
Marina española, que ya ha vencido, que ya ha vencido. Tanto alemán que tienes, tanto italiano, y a un español le basta solo una mano. Y han de ver, y lo van a ver, como al Baleares, o la Cervera y Canarias, bajo los mares, bajo los mares.
Y han de ver, y lo saben bien, y ya lo habéis visto.
En définitive, ce n'est pas la poésie qui doit être libre, c'est le poète, dit Desnos dans cette postface à État de veille, et il va devoir prouver sa liberté. Desnos est extrêmement sensible à la tension qui règne en Europe et à la montée du nazisme et du fascisme, et en particulier, comme on en a parlé déjà, il avait en fait appris l'espagnol à l'école, hein, puisque c'était pendant la guerre de 14 et son père n'osait pas, voulait plutôt qu'il apprenne l'allemand, mais c'était pas bien porté à l'époque. Donc, le côté hispaniste de Desnos va l'amener non seulement à se débrouiller très bien, à faire la connaissance de tous ces poètes latino-américains, comme tous les gens qui sont Asturias, et évidemment l'amitié avec Alejo Carpentier, mais aussi avec toute la latinité. Hein. Il se lie d'amitié aussi avec un très grand poète dont j'espère on parlera ici aussi, qui est César Vallejo, un péruvien qui s'est exilé en Europe. Et également, il rencontre Garcia Lorca, avec qui il a des rapports très amicaux. Desnos chante comme une patate, il le dit lui-même, mais il se rencontre avec Garcia Lorca et ils évoquent ensemble par exemple une chanson normande qui a son équivalent musical en Espagne et chacun chante sa version. Donc une grande amitié les lie et évidemment au fur et à mesure que la tension va monter en Espagne, Desnos va donner de sa personne pour organiser des meetings et des galas de soutien aux républicains espagnols. Il écrit même plusieurs cantates, enfin il est très productif à cette époque. Et en particulier, il écrit ce petit texte qui s'appelle « Savez-vous la nouvelle ? Garcia Lorca va mourir, évidemment, quand il apprend la nouvelle. »
Savez-vous la nouvelle ?
Après le soir vient la nuit, l'eau chante à la fontaine, la lune se baigne au puits.
Savez-vous la nouvelle ?
L'amour, la nuit, l'air, le vent, jour, nuit, et c'est la vie, la danse, au tambour, au mois d'août.
Savez-vous la nouvelle?
Le linge est blanc sous nos doigts. Viens donc avec les filles, aimer, chanter et danser.
Savez-vous la nouvelle?
L'été, l'hiver, l'eau, le vin. Viens, viens, voici la danse, les bruits et l'amour dans les bois.
Savez-vous la nouvelle? Garcia Lorca va mourir.
Ah, 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 ah. Les champs sont gorgés de soleil, les fleuves sont secs, la terre les a bu. Les moissons dorment dans les greniers, qu'il fera bon rêver tout l'été en buvant le vin des outres.
Alerte, la rouge moisson des libertés s'apprête. Alerte. Demain, cette nuit, aujourd'hui, alerte, Garcia Lorca est déjà mort.
L'usine ce soir au soleil est comme un château. Dormir loin du travail, sous le ciel, car nous sommes très là, qu'il fera bon rêver tout l'été, en buvant le vin des autres.
Alerte, la rouge moisson des libertés s'apprête. Alerte, demain, cette nuit, aujourd'hui, alerte, Garcia Lorca est déjà mort.
La mer, elle, chante. Et ces flots sont pleins de reflets, d'éclairs des grands poissons. Les courants porteront nos bateaux parmi les vents plus chauds et calmes, au-dessus des fonds propices.
Alerte, la rouge moisson des libertés s'apprête. Alerte, demain, cette nuit, aujourd'hui, alerte. Garcia Lorca est déjà mort.
Qui est ce Garcia Lorca? Nous ne le connaissons pas. Qui est ce Garcia Lorca?
C'est vous-même.
Et des bords de l'océan à ceux de la Méditerranée déferla une marée d'incendies, de fumée et de sang, feu et sang. Ils se levèrent tous dans les villes et dans les hameaux, aux flancs rocailleux des montagnes décharnées, tels des morts. Feu et sang et mort. Ils se battirent au nom de seule liberté, surnageaient dans le bruit des batailles poussées par l'élite et la fleur de la jeunesse du monde, de la libre jeunesse du monde. Amis du Mexique, Tata Nacho, n'est-ce pas que nous sommes coude à coude avec l'Espagne? Amis de Russie, Eisenstein, tous cœur à cœur avec l'Espagne. Amis des États-Unis, Hemingway, Dos Passos, et toi, Shipman, plus ardent que nul autre. Amis du Chili, Cotapos, toi le plus joyeux de tous. Amis du Guatemala, Asturias, toute ironie et sentiment. Amis de Cuba, Félix de Castro, la flamme et sa chaleur. Amis, amis de tout pays, tout cœur à cœur avec l'Espagne. Amis de Norvège, Per Krog, la loyauté, la droiture et le courage. Œil à œil, cœur à cœur avec l'Espagne, qui triomphe à l'heure où j'écris ces lignes. Amis des Indes, Charles Baron, trop tendre, trop amical. Amis par le foie rougi d'alcool et la foi rougie de doute, mais dans la main de nos frères espagnols. Amis du Japon, le seul peut-être Takasaki, grands yeux ouverts, bouche maladroite, yeux désormais fermés, bouche close. Takasaki, mort depuis des années, tu serais avec nous pour l'Espagne républicaine.
Par un point situé sur un plan, on ne peut faire passer qu'une perpendiculaire à ce plan, on dit ça. Mais par tous les points de mon plan à moi, on peut faire passer tous les hommes, tous les animaux de la terre. Alors votre perpendiculaire me fait rire. Et pas seulement les hommes et les bêtes, mais encore beaucoup de choses. Des cailloux, des fleurs, des nuages, mon père et ma mère, un bateau à voile, un tuyau de poêle, et si ça me plaît, 400 millions de perpendiculaires.
400 millions de perpendiculaires que trace Robert Desnos entre le résistant et l'homme facétieux, puisque jamais aucune de ces choses n'est abandonnée dans son écriture. Alors on a parlé de l'homme de radio, il va aller très loin, il va innover énormément dans la radio, notamment avec une émission qui s'appelle La Clé des Songes, qui est une sorte d'émission interactive dans laquelle il va demander aux auditeurs de lui envoyer des récits de rêves qu'ils ont faits, et il va leur proposer des interprétations de ses rêves, mais il va également les mettre en onde, c'est-à-dire qu'il va raconter l'histoire du rêve. Alors voilà maintenant la chose, le petit clou de notre émission, c'est que c'est une chose très rare. Ce sont 3 minutes de la voix de Robert Desnos interprétant, ou plutôt racontant un rêve à la radio. Malheureusement, c'est la seule chose qui nous reste de Desnos, puisque à l'époque, les émissions étaient faites sur des acétates qui se détérioraient très vite au bout de 6 mois. Alors, je ne sais pas par quel hasard technique celle-là a survécu. Elle devait être probablement sur un autre support. Alors, évidemment, la qualité technique n'est pas très bonne. On entend des tas de gratouillis. Mais voilà, c'est quelque chose de très émouvant, puisque c'est la voix de Robert Desnos. Et je pense que c'est d'ailleurs sa seule apparition, à part un très bref passage dans un film qui s'appelle L'Étoile de mer, qui était réalisé par Man Ray. Voilà. Donc on va écouter ce document sonore, 3 minutes, avec Robert Desnos qui raconte un rêve.
Je me trouve tout d'un coup dans un pays étrange où le vent souffle avec violence. Nous étions toute une bande qui marchions en chantant.
Marjolaine, cabé-bouton, la belle digue-dig, la belle digue-don.
Marjolaine, cabé-bouton, la belle digue-dig, la belle digue-don.
Les autres allaient très vite. Moi, je ne pouvais pas arriver à les suivre, malgré mes efforts.
Attendez-moi, attendez-moi.
Marjolaine, cabé-bouton, la belle.
Soudain. Devant nous, il y avait...
Mais qu'est-ce que c'est que ces saletés, des hippopotames?
Oui, des hippopotames, tout là. Ah, ça leur s'est inouï.
Ils se mettent tous à fuir. Moi, je ne pouvais plus bouger mes jambes.
Et tout à coup...
J'étais en train de marcher sur Max Rainier qui était allongé par terre et qui était long de 30 mètres et couvert de taches comme un corps de girafe. Les deux hippopotames se précipitèrent sur nous et, au moment où ils allaient nous écraser, je vis derrière mon arbre un défilé surprenant. Toutes les bêtes sauvages du monde. Une vraie ménagerie. Mais à ce moment-là, une tempête s'éleva. Le vent, la pluie, l'orage faisaient fuir les bêtes sauvages. Était devenue une tempête de musique. La forêt était devenue une salle de concert. On applaudissait et pourtant il n'y avait personne dans la salle. Les applaudissements devenaient assourdissants. On aurait dit une fusillade.
Entrez là, vous serez à l'abri. Entrez là, mais entrez donc.
C'était l'ouvreuse de la salle de concert qui me poussait dans une loge capitonnée. La loge était un abri bétonné où se retrouvaient tous les spectateurs tassés comme des sardines. Au-dessus de nous, la salle s'effondrait. La fusillade continuait. Dans l'abri, tout le monde se plaignait d'étouffer.
Au secours.
De l'air.
Moi-même, j'allais étouffer quand je me suis réveillé haletant, mon oreiller par-dessus ma tête.
C'était Robert Desnos racontant un rêve et c'était enregistré dans les années 37 ou 38 peut-être. Une voix, celle de Robert Desnos.
Une voix. Une voix qui vient de si loin qu'elle ne fait plus tinter les oreilles. Une voix comme un tambour voilé parvient pourtant distinctement jusqu'à nous. Bien qu'elle semble sortir d'un tombeau, elle ne parle que d'été et de printemps. Elle emplit le corps de joie. Elle allume aux lèvres le sourire. Je l'écoute. Ce n'est qu'une voix humaine qui traverse les fracas de la vie et des batailles, l'écroulement du tonnerre et le murmure des bavardages. Et vous, ne l'entendez-vous pas? Elle dit « la peine sera de courte durée ». Elle dit « la belle saison est proche ». Ne l'entendez-vous pas?
Une voix qui vient de si loin, qu'on a pu entendre à la fois enfin, dans ce récit de rêve évoquant aussi peut-être l'ombre de la guerre qui se profile. Et nous laissons la place à Lojo pour une dernière plage musicale sur un texte de Robert Desnos, puisque, comme il le dit dans sa postface à l'état de veille, Desnos désirait que les musiciens mettent de la musique sous ses vers, contrairement à d'autres, et il a été largement servi, que ce soit par Gréco, par Bachung, qu'on a fait passer, et aussi par Lojo.
Death nas never nie będzie. Death nas ty te. A oui. Pierre, Pierre. Pierre, Pierre. Cœur à cœur et tête à tête. Les beaux jours sont passés. Les beaux jours sont passés. Fil à fil. Feu à feu. Les jours sont beaux et ne passent pas. Les jours sont beaux mais ne passent pas. Pour qui va t'être nerveux? Allez, Marguerite, un petit blanc pour la terrasse.
Ainsi s'achève cette émission qui était consacrée à Robert Desnos, ce troisième épisode qui parlait des années de maturité, de l'ascension de Robert Desnos, de son esprit multiple et de son talent polymorphe, on va dire. Voilà. Merci mes camarades. Je dois remercier mes camarades de la brigade d'intervention poétique qui étaient à mes côtés. Yves Flanck, avec qui j'ai préparé cette émission. Marc Na. Charo Beltran, Marc Pastor, Patrick Vendrin. Vous pouvez également réécouter ces émissions sur le site michelarbatz.com à la rubrique Brigade d'intervention poétique. La prochaine émission suivra Desnos sur sa dernière route, celle de la résistance et de la déportation. Nous remercions aussi les musiciens qui ont nourri cette émission, Steve Reich, Salif Keïta, Richard Galliano, les musiciens anonymes des orchestres de la République espagnole, Lojo et votre serviteur, Michel Arnaud. Bonsoir. Thank you.